Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families.
Aujourd'hui, on retrouve Julia au micro, une maman chilienne mariée à un Français vivant au Chili. Elle nous raconte la rencontre avec son mari et puis leur départ en France pendant plusieurs années pour enfin retourner au Chili et démarrer un complexe hôtelier. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour Julia.
Bonjour Cindy.
Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast.
Ça fait très très plaisir de pouvoir partager une expérience assez intéressante, on va dire.
Oui, c'est atypique, c'est clair. Alors, d'ailleurs, tu nous mets du coup dans le feu de l'action. J'aimerais bien, avant qu'on démarre, que tu te présentes rapidement, que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille.
Oui, alors, mon prénom, donc, c'est Julia et j'habite au fin fond du Chili, dans un endroit qui s'appelle Malalcahuey, tout près de l'Argentine. Et à la base, okay. Je suis journaliste. Et puis, qu'est-ce qu'on fait en ce moment avec ma famille? C'est on loue des chalets. On a construit un projet touristique dans cet endroit. Et on loue des chalets tout près de la cordillère des Andes et tout près d'un volcan qui s'appelle Longuimay.
Waouh! Ah ouais, à côté d'un volcan, c'est pas risqué ça?
Pas du tout, pas du tout. Bon, on sait que le volcan, tous les 10 ans, il pète. mais bon, oh, on sait pas, tu sais, c'est comme les tremblements de terre. Le Chili est caractérisé par ce type d'événements, donc on est un peu habitué. On sait que ça peut se passer à n'importe quel moment, donc les Chiliens, on a bien intégré tout ça.
Et alors, j'aimerais bien que tu nous dises un peu, toi, ton background culturel, parce qu'il me semble que d'origine, tu n'es pas française, c'est ça?
Absolument. Je me considère une Française adoptée. Je suis arrivée en France quand j'avais 26 ans. J'ai vécu plus de 10 ans là-bas. Et puis, comme je te disais au début, j'étais journaliste au Chili. Et j'ai travaillé quelques années dans plusieurs médias, télévision, radio, journal, économique, enfin, bref. Et puis, quand je suis arrivée en France, j'ai eu la chance de travailler en tant que coordinatrice des projets pour le British Council, pour plusieurs pays de l'Union européenne.
D'accord. Donc, de base, tu es chilienne,
exactement.
C'est ça?
Pardon, oui, je suis chilienne.
Mais tu parles super bien français.
Oui.
Et sans accent, c'est incroyable. On ne sent pas le petit accent.
Un tout petit accent, oui.
Oui, un tout petit. Mais c'est vraiment... c'est incroyable.
Je me sens...
Et alors...
Pardon, comme je te disais, je me sens tellement imbibée de la culture française que la langue, ça vient avec, elle est tellement belle que j'adore.
Oui, après, c'est quand même assez similaire à l'espagnol.
Oui, c'est vrai qu'il ressemble énormément, oui.
Oui. Alors toi, ton mari est français. Où est-ce que vous vous êtes rencontrés du coup?
Oui, alors Alexandre, il est français. Et lors d'un voyage en Amérique du Sud, il faisait le tour de l'Amérique du Sud à cette époque-là. Ça veut dire, ça fait 24 ans. On s'est rencontrés ici au Chili pendant que je faisais mes études de journalisme dans une fête. On était jeunes à l'époque, on avait 20 ans. Et lors d'une fête, on se retrouvait, et puis voilà, on est ensemble depuis.
D'accord, donc il est jamais reparti?
En fait, il est resté.
Il est resté au Chili avec
son toi? Son plan à la base, c'était de rester 2 semaines au Chili, et ensuite continuer en Argentine, et puis il est resté 7 ans. Et ensuite, ensuite, on a quitté le Chili pour aller en France. Et c'est là qu'on a resté plus de 10 ans. Et nous revoilà de retour au Chili.
C'est
on est nomade. Okay. Ouais, on est un peu nomade. Oui.
Mais alors, qu'est-ce qui vous a fait partir du Chili 7 ans après que vous soyez rencontrés?
Oui, parce qu'à cette époque-là, Alexandre, il travaillait dans le prêt-à-porter. Et il y a eu une crise asiatique qui s'appelait à cette époque-là, cette année-là. Et ça fait... les business ne marchaient pas très bien, on va dire, dans cette manière. Donc, on a décidé de quitter le pays pour retrouver quelque chose de mieux, quoi.
Ok. Et alors, toi, comment tu te sentais à l'idée de quitter le Chili pour aller en France?
Oh, je me sens très, très, très à l'aise depuis toujours.
Ouais. Tu parlais français à l'époque?
Non, pas du tout. Pas du tout. Je parlais anglais parce que j'ai fait ma terminale aux États-Unis, mais pas du tout français. Okay. Et donc, depuis ce temps-là, quand j'avais 16 ans, que je suis allée aux États-Unis, j'ai toujours voulu, j'aime bien les différentes cultures et j'étais prête à aller ailleurs pour voir une autre chose, quoi.
Et donc, vous, où est-ce que vous vous installez en France, en région parisienne?
Oui, tout à fait. Donc, on arrive en région parisienne, dans un très, très bel endroit, dans les Yvelines.
Sympa. Et alors, comment tu te sens, toi, la France par rapport au Chili? Est-ce que les gens, déjà, ont été accueillants et sympathiques?
Absolument, absolument. J'ai eu la chance d'avoir de créer un réseau très, très, très sympa, toujours très, très bien accueilli partout, dans les endroits où j'ai pu travailler. Tout au début, j'étais formatrice des langues espagnoles. Et aussi, j'ai retrouvé des gens très, très, très sympas. Et même quand j'ai étudié à la Sorbonne, les premiers mois, j'ai fait un petit cours de français. Et aussi, pareil, oui, très, très sympa. Et donc voilà, petit à petit, j'ai créé un cercle très, très, très touchant, très, très cool, on va dire. Un réseau français très, très cool, quoi.
Donc, tu cherches pas à te rapprocher de la communauté potentiellement de Chiliens en France?
Ah non, pas du tout. Vraiment, j'avais envie d'être dans la culture à 100% qui m'est accueillie à cette époque-là. Et c'est ça que j'ai fait. Et c'était sympa. Je pense que c'est la seule manière vraiment de pouvoir tester, pour le dire d'une certaine manière, quelque chose qui est différent à ce que tu connais jusqu'à présent.
Oui. Mais alors, attends, de base, toi, du Chili, tu viens de là où vous habitez aujourd'hui ou tu venais d'une ville?
Pas du tout, exactement. Je viens d'une grande ville, c'est la capitale de
Buenos Aires,
du Chili. Non, c'est Santiago. Et
je croyais que c'était Buenos Aires.
Non, c'est l'Argentine. T'inquiète pas. Toujours, c'est difficile à retrouver tous ces noms dans la carte du monde. Et donc, citadine, très, très citadine. Voilà, on arrive à habiter dans un endroit vraiment, c'est l'extrême, parce que ici, c'est la campagne, hein, la montagne, la campagne, très rude.
Mais parce que j'étais en train de me dire, si elle vient quand même de la campagne du Chili et qu'elle débarque en région parisienne, ça doit faire un sacré changement.
Absolument, mais non, j'étais très citadine à l'époque, donc ça ne m'a fait pas tellement le choc au premier abord. Oui.
Et alors, à quel moment vous décidez d'étendre la famille en France?
Avec Alexandre, on était des voyageurs, hein. On travaillait beaucoup pour voyager énormément. Et puis bon, à un moment donné, il y a notre petite Émile qui arrive. J'ai eu Émile à l'âge de 38 ans. Et puis voilà, quand j'étais enceinte, justement, on a pris la décision de quitter la France. De mon côté, parce que j'avais vraiment besoin d'espace. J'avais plus envie d'habiter dans un petit appartement. Tu sais, Paris, c'est toujours des petits espaces. J'avais vraiment besoin d'espace. Donc, c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai décidé d'accompagner Alexandre dans cette aventure. Parce que lui, c'était le moteur. Hein. Tout d'abord, j'avais pas très envie. et voilà, j'ai suivi pour ça.
Donc, attends, si je résume, ça veut dire que tu es enceinte et que ton mari te propose de retourner au Chili directement en zone rurale, en fait?
Exactement. C'est lui qui a présenté cette idée. La première fois, je me souviens, il m'a dit, pourquoi on ne va pas au Chili, tu sais, l'endroit où on avait vu, c'est super sympa. J'ai dit, non. Non, tu vas tout seul. Et après, une fois que je suis tombée enceinte, ça a changé. Ça a changé avec cette envie d'espace. C'est drôle, hein, c'est drôle. Mais vraiment, j'ai senti ça tout au fond de moi, que j'avais besoin que cet enfant... Et moi-même, hein, nous soyons plus libres, avec besoin d'espace.
Bah dis donc, mais alors t'appréhendais pas de faire ton accouchement et ton suivi de grossesse, je sais pas, en campagne?
Ah, c'est drôle, quand on va à l'aventure comme ça, on se pose même pas des questions, on y va. Alexandre, on l'a toujours fait un peu comme ça, hein. Chaque fois qu'on se décide un truc, on n'y pense pas, on réfléchit pas tellement, parce que sinon tu le fais pas, je pense. Donc on y va. Et c'est drôle que tu parles justement d'accouchement dans ce coin-là, parce que c'est pas du tout évident. L'hôpital ou la clinique la plus proche d'ici, c'est à 2 heures.
C'est ce que je me dis.
J'ai des copines à côté qui sont accouchées en arrivant dans le parking de l'hôpital.
purée.
Ah bah oui, et bah oui, et bah non, on a eu la chance, entre guillemets, parce qu'il pleuvait, c'était la nuit, il pleuvait, tu sais, ici, il pleut beaucoup, 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 on est tout près de l'Antarctique, hein. on doit pas oublier que le sud du Chili est vraiment très collé à l'Antarctique, donc du coup, le climat est très, très pluie, très froid. Donc il pleuvait, il pleuvait beaucoup de vent. Ben, Alexandre était brave, il a réussi à conduire 2 heures jusqu'à la clinique. Il est arrivé juste à temps.
Oh la vache, oui. Trop bien. Ah, oui. Trop bien. Mais alors, comment ça se passe juste avant les suivis de grossesse? Parce que tu es arrivée au Chili, t'étais à combien de mois de grossesse, si tu te rappelles?
Non, en fait, Émile est né en France. Quand nous sommes arrivés ici au Chili, il avait 1 an. Et c'est c'est mon deuxième enfant, c'est-à-dire Lucie, qui est née ici au Chili.
Ah, oh, donc quand tu dis que tu étais enceinte, c'était de ta fille Lucie, c'était pas d'Émile, c'est ça?
Bah oui, quand je parle de, justement, de cette expérience d'aller accoucher à 2 heures d'ici, oui, c'est Lucie. C'est Lucie.
Ok, donc tu as fait quand même un suivi de grossesse et un accouchement en France.
Exactement. J'ai fait une expérience en France d'accouchement et une expérience au Chili d'accouchement, oui.
Ok, donc si je résume, vous êtes partie au Chili en étant toi enceinte de ton deuxième enfant et avec un petit Émile qui a quel âge à l'époque?
Non.
Qui a 1 an?
En fait, quand j'étais enceinte en France et on a pris la décision de venir ici, ça s'est passé un bout de temps. Et nous avons quitté la France quand Émile avait 1 an. Tu vois, j'ai accouché en France, Émile avait 1 an, et voilà, on a quitté la France. Et puis après, ici.
Ok, donc en fait, vous prenez la décision de partir au Chili quand tu es enceinte de Émile.
Oui.
Ouais. Mais vous attendez quand même qu'Émile naisse pour partir au Chili, c'est ça?
Voilà, tout à fait.
D'accord. Oui. Et donc, aucune appréhension de partir avec un petit bambino d'un an sous le bras?
Non, hein, quelle folie, hein. c'est la folie totale. Quand je pense, je me dis, mais on était fous. Quand, tu sais, avec un premier enfant, tu sais rien, t'es complètement perdue comme maman et t'as besoin de prendre tes repères et tout le tralala. Bah non, on a vraiment, on n'a pas réfléchi.
C'est dingue.
Ouais. Je pense qu'on est, ouais.
Mais t'avais dû arrêter ta carrière de journalisme et tout ça. Enfin, je veux dire, comment vous étiez organisé? Qui va gérer Émile, par exemple, quand vous allez arriver là-bas?
On n'a pas réfléchi. Du coup, c'était très dur et drôle à la fois parce que au bout d'un moment, bon, Alexandre, il a commencé à créer le projet, c'est-à-dire à construire. Et moi, j'ai dû aller travailler à l'hôtel, hein, qui c'est le centre de ski. C'est comme le seul endroit où tu peux trouver du travail. Et du coup, parfois Émile allait avec moi bosser, parfois je donnais l'enfant à la fin de la journée à Alexandre, voilà, truc, c'est à toi maintenant, et c'est lui qui gérait.
Your
turn. Ah ouais, c'était vraiment waouh. Quand je regarde en arrière, waouh, c'était fou, hein.
Ouais, parce que t'avais pas de famille non plus qui habitait à côté, j'imagine. Ils habitaient tous à la capitale.
Exactement. Okay. Ah, exactement. Ouais, j'ai très peu de famille. En fait, mes parents sont morts quand j'étais toute petite. Donc, ma famille, c'est ma sœur. Et du coup, elle habite à Santiago. Et Santiago, c'est loin. Ici, c'est 7 heures de route. Donc, c'est pas si évident. Donc, non, on était seuls à l'époque à gérer tous ces événements-là. Ouais.
C'est fou. Mais alors, comment ça se passe un suivi de grossesse au Chili?
Ouais.
Parce que quand t'es en zone rurale comme ça, est-ce que t'as un médecin à portée de main?
J'étais tellement étonnée, Cindy, d'avoir retrouvé tout ce que je voulais au niveau du suivi des grossesses, de l'accouchement. Parce que en France, bon, quand on a un premier bébé, on ne sait pas où on va en fait. Donc, on se laisse faire, on se prend par les protocoles. Finalement, on laisse à tout le monde faire et on oublie que nous, on sait comment accoucher, on sait ce qui arrive à notre corps, on oublie ça. On laisse les médecins tout faire, finalement. Je ne dis pas qu'il faut pas faire avec les médecins et pas écouter ce qu'ils disent. Mais je pense qu'à bout d'un moment, il faut établir des luttes. Et par exemple, mes 2 grossesses, j'ai voulu sans péridurale, je voulais que ce soit le plus naturel possible. Et en France, c'était très dur de retrouver ça parce qu'il y avait un seul hôpital qui faisait ça à Paris et c'était plein jusqu'à l'année 2021. Il n'y avait plus de place. Voilà, tu ne pouvais pas t'inscrire. Donc, c'était super dur. Et donc, j'ai accouché dans une clinique tout près de chez moi. Justement, je voulais être dans un truc tout près parce que ça me faisait peur d'accoucher dans un truc trop loin à l'époque. C'était mon premier enfant. Et voilà. Et donc, avec le deuxième, tu vois, je savais déjà à quoi m'attendre. Je savais comment je voulais gérer la chose. Je savais absolument. Je me sentais tout prête et puissante pour pouvoir justement donner naissance comme je le sentais. Et le médecin m'a accompagnée à 100%, le médecin chilien. Et c'est drôle, il parlait un peu français parce qu'il avait fait je sais pas quoi en France, un petit cours, je sais pas quoi. Mais donc il m'a accompagnée dans tous mes délires, de pas couper le cordon, d'attendre 20 minutes, enfin voilà, plusieurs choses qui pour moi ça me faisait du sens. Et donc ça a été super, j'ai adoré. Et en France c'est une expérience très sympa aussi l'accouchement parce que c'est passé très rapidement. J'ai attendu jusqu'à la dernière minute avec Lucie, pareil. J'ai attendu jusqu'à la dernière minute.
C'est bien. T'es just in time.
Ouais. Donc, je suis arrivée et puis, paf, c'était fait. Mais l'après, tu sais, je pense que l'après, ça marque la différence entre les pays, enfin, entre la France et le Chili, justement. Parce qu'en France, je me sentais très poussée, par exemple, à donner le lait en pot. Voilà. Ici, je me sentais plus rassurée par les infirmières je savais déjà comment faire aussi, hein, quand avec le premier bébé, je pense que nous femmes, nous nous sentons tellement pas capables, avec le sein surtout, on ne sait pas comment faire, ça ne marche pas tout de suite. Et
mais
tu commences
à entendre. C'est compliqué, hein.
Ben oui, c'est compliqué. Tu entends les gens qui disent des choses, tu n'as pas assez de lait, mange je ne sais pas quoi pour en avoir plus. Finalement, tout ça crée de stress supplémentaire et ça ne marche pas. Et c'est pour ça que plusieurs femmes. À la fin, tu es fatiguée, tu n'en peux plus, parce que voilà, quoi, c'est déjà assez énorme, c'est un travail énorme, donner de la vie, tu es crevée, tu es fatiguée, tu ne dors pas pendant je ne sais pas combien d'années, dans mon cas, au moins 3 ans, et puis voilà, donc avec le deuxième, on sait où on va, donc je pense que j'ai pu encheminer ça d'une manière plus sympa. Oui.
Oui, mais alors attends, parce que moi, so far, de tous les témoignages que j'ai reçus en Amérique latine, j'ai cru comprendre que les hôpitaux favorisaient énormément les césariennes et ce genre de choses pour pas perdre de temps et pour faciliter, entre guillemets, eux, leur approche. Donc, toi, tu as eu un accouchement par voie basse ?
Exactement. Et c'est vrai ce que tu dis, Cindy. C'est hallucinant comment ils te poussent vers programmer ton accouchement. Et du coup, les filles, ici, c'est normal, tu programmes. Voilà, mon bébé va être né tel jour, et tu programmes avec ton médecin. Voilà, c'est fait, c'est comme une lettre à la poste. Moi, ça me choquait énormément, tout ça. Donc, j'ai vraiment cherché, comme je te disais, le médecin qui voulait me suivre dans mon délire, entre guillemets. Et je l'ai trouvé, à 2 heures dans cette clinique à Temuco. C'est la ville.
Bah, t'as eu de la chance.
Ouais, j'ai eu beaucoup de chance.
Parce que j'ai cru comprendre que c'était quand même monnaie courante de faire césarienne, tac, 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 on perd pas de temps, quoi.
Absolument.
Et on prend pas de risque.
Ah oui, c'est ça. Dans les hôpitaux, t'as pas le choix. Dans les hôpitaux, c'est n'importe quel médecin, t'y vas, et puis c'est tout, quoi. Il fait ce qu'il veut, il te coupe, enfin, voilà. Non, dans les cliniques, c'était différent. Tu sais, au Chili, il y a un système qui ressemble énormément aux États-Unis, en fait. Hein. Les hôpitaux, c'est vraiment pour les gens qui n'ont pas trop d'argent. Enfin, tu peux pas choisir. C'est différent. Tu peux aller dans une clinique où c'est mieux le système. Enfin,
privé.
Bref. Ouais. Et donc, j'ai trouvé, comme je te disais, ce père rare dans cette clinique qui avec son...
C'est trop bien.
Ouais, avec la sage-femme aussi. Ils m'ont suivi, mais jusqu'au bout de mes délires.
Bah écoute, faudra que tu donnes tes références à des gens qui vivent au Chili potentiellement et qui sont inquiets par la césarienne.
Absolument. Ouais.
C'est très bien en tout cas comme témoignage parce que j'avais peur qu'on tombe encore sur des abominations faites aux femmes.
Ouais, tu m'étonnes. Ah oui.
Donc c'est un peu, ouais, c'est un peu de fraîcheur que tu nous apportes. Donc vraiment, merci beaucoup.
Oui. Oui. Et même, tu sais, c'est drôle parce que au début, on avait pensé d'aller dans un hôpital très rare, hein, c'est un hôpital à Villarrica qui pratique, ils appellent ça l'accouchement humain. Donc je suis allée voir, mais oui. Moi, là c'était trop loin, vraiment trop loin, donc c'est pour ça que je suis allée là-bas. Mais tu pouvais choisir, ils avaient tout un truc. Tu pouvais choisir d'avoir ton bébé dans l'eau. Tu pouvais choisir, il y avait une salle spéciale, même les fenêtres, elles n'étaient pas en noir pour que tu sois plus dans un cocoon, tu vois, pour avoir ton bébé. Non, mais un truc délire. Mais voilà, c'est rare, mais il y en a. Je pense que le Chili est plutôt vers ça. Hein. Si tu cherches, tu en trouves. Je pense que la France maintenant, ouais. Bah, je parle d'il y a 7 ans, ouais, c'est, il y a 7 ans, c'était pas tellement le sujet, enfin on discutait pas tellement de cet accouchement humanisé. Peut-être que maintenant c'est différent, ça a changé. Peut-être qu'il y en a plus des hôpitaux qui proposent aux femmes d'accoucher de cette manière.
D'accord. Bon bah écoute, c'est intéressant à savoir. Et alors comment ça se passe la rencontre entre Émile et Lucie? Est-ce que lui il était content déjà d'avoir une petite sœur?
Ah oui, c'était super. Mais même maintenant, tu vois. Bon, parfois. Vraiment, je pense que quand les enfants, ils se battent, je pense que c'est le plus dur pour nos parents. C'est terrible. Mais ouais, la rencontre, c'était super. Ils étaient très contents de sa sœur et ils adorent. Et même s'ils se battent parfois, c'est tout à fait normal aussi. Parfois, ils sont nuls, oui. Voilà. Donc, ils trouvent rien mieux que se battre un peu. Mais oui, non, très très bien, pas du tout, pas de problème de jalousie, parce que j'entendais, ouais, il faut faire attention, parce que les enfants peuvent être jaloux, parce qu'on est trop penché vers le bébé, donc, oui. Pas du tout, j'ai pas eu cette expérience-là, au contraire, on était très bien, vraiment très bien.
Ouais, j'ai pas eu ça non plus, j'ai pas eu de jalousie. Bon, après, il était peut-être petit, donc il comprenait pas trop ce qui se passait, c'était acté, je pense, mais... Ouais, pareil. Donc, comme quoi, ça dépend vraiment, je pense, de ton aîné.
Ouais, je pense aussi. Et de toi-même, de où tu es, enfin...
Là, on en est à combien? Alice, elle a un mois. Et Pierre, il arrive sur ses 22 mois, là. Donc, on est... tu vois, ils sont extrêmement jeunes.
Ah oui, oh là là,
il adore, il veut tout le temps lui faire des bisous, des câlins, tout ça.
Vraiment, ouais. T'as deux bébés, non, Cindy, c'est là. Vraiment. C'est deux bébés, là. Oh mon Dieu.
Ah oui,
tout. Ouais,
deux.
Au secours. Ah, je...
C'est challenging.
Wow.
C'est challenging.
Ah oui, absolument. Oui, ah oui.
Mais après, on se dit dans un an, c'est bon. On pourra se mettre sur le canapé, ils pourront jouer ensemble, on sera bien.
C'est drôle, là. On pense toujours à ça. Moi pareil, on dit, bon, encore deux ans, il sera complètement indépendant. Encore un an. C'est drôle, mais c'est fatigant le travail des mamans. Parce que maman, c'est pas papa, hein, c'est maman tout le temps. Les enfants, ils appellent maman. Voilà, maman, c'est maman.
Ouais. Bah, surtout les bobos. Hein. Oui. Enfin, bon, bref. Ouais. Mais donc vous arrivez sur place. Raconte-moi alors le projet de
chalet. Oui, de chalets.
De ces chalets.
Ça devient un petit complexe maintenant, touristique, parce qu'on a plein de choses. On a commencé de rien. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité. C'était vraiment
un... Vous avez juste acheté un terrain,
voilà,
c'est ça?
C'est un terrain. Basta. Un terrain voilà. Au milieu de rien, et donc du coup on a
un volcan.
On a lui une maison tout près, mais dans ce coin là les maisons sont très basiques, il n'y a pas il y avait le vent qui rentrait la nuit dans la maison, il faisait très froid, c'était vraiment n'importe quoi la première année. Jusqu'à qu'Alexandre arrive à construire notre maison comme il faut. Donc voilà, c'était une année, on avait une seule voiture et je devais aller dans le centre-ville, on va dire, qui est le petit village le plus près d'ici, c'est 40 minutes hein, pour acheter ta nourriture et l'essence, ouais. Et tout le tralala. Donc j'allais en bus, il y a simplement deux bus hein, dans la journée. Et j'allais avec le bébé.
T'as pas intérêt à te louper.
Ah, les bébés, les couches et tout. Et j'allais... Non, mais c'était... Voilà. On a...
Les folklore.
Ouais, c'était folklore. Voilà le mot. Tout à
ça
fait.
Change de RER.
Ah oui, c'était pas... Non, mais et c'est drôle parce que, par exemple, pour se réchauffer ici, ils utilisent un sort de poêle, tu vois, que tu mets le bois dedans. Et j'ai dit, mais il est où le bouton? Je peux pas. Il faut faire tout un truc, comme quand tu fais un barbecue, tu vois, les bois, il faut le placer avec le papier. Mais c'est quoi ce truc?
Mais comment tu, je sais même pas comment t'arrives à gérer avec un.
Avec un bébé. Enfin,
j'imagine
avec un
en
premier
plus,
bébé.
Émile,
hein.
Oui, il a 12 mois, donc il commence un peu à marcher, mais... à toucher à droite, à gauche.
Ah, mais il a mangé plein de terre.
Ah, bah, il était vacciné.
Il faisait des tartines avec de la boue et tout. C'est, voilà. Ouais. C'est drôle, hein. C'est drôle.
Mais ça met combien de temps alors à développer toute l'infrastructure et tout?
Bah, on a un an. On a pris un an à vraiment à tout, à laisser plus ou moins tout prêt pour commencer à travailler et à recevoir des gens, tu vois, des réserves et tout ça. Mm. Ça a pris un an, oui, un an.
Mais vous démarriez avec un seul chalet et tu développes au fur et à mesure.
On a commencé avec 4 chalets et on habitait dans l'un des chalets, voilà. Donc, on a commencé à louer 3. Et voilà, et petit à petit, après, on a commencé à faire une salle pour des groupes. Et voilà, des petits trucs se sont rajoutés. Et ce qui fait maintenant un petit complexe familial. Les gens, ils aiment bien venir ici parce que c'est une famille qui reçoit des familles. Donc, on se comprend très bien. Du coup, quand il y a des familles avec des bébés, j'ai tout ce qu'il faut. Parce que je sais que quand on voyage avec des enfants... Surtout avec des bébés, la moitié de la voiture, c'est le bébé. Entre les couches.
Ah oui, clairement.
Et voilà. Donc, oui, on aime bien, justement, de travailler avec ce public-là, c'est la famille, parce qu'on comprend tout à fait.
Oui. Mais alors, attends, comment vous vous organisez, alors, du coup, à la maison, maintenant, avec 2 enfants? Est-ce que vous avez des crèches? Est-ce que vous avez des nannies ou est-ce que vous devez vous occuper tous les deux avec avec les chalets en même temps de gérer les enfants?
Voilà, comme tu dis, hein, c'est ça. C'est un peu folklore aussi. Okay. En plus, avec la pandémie, les enfants n'ont pas d'école depuis un an et demi. Donc, je suis en train de faire maîtresse, maman, chef d'entreprise à la fois. Donc, c'est très, très fatigant.
Oui, multitask.
Ouais, multitask, absolument. Et on sait pas, on voit pas la fin non plus. Le gouvernement ne donne pas le vamos pour ouvrir les établissements scolaires. Donc, on se retrouve à travailler avec eux. Maintenant, ils ont un peu l'habitude, hein, depuis toujours. Hein, ils font partie du staff. Toujours de dire aux gens, ils font partie du staff. Et du coup, ils aiment énormément partager avec les gens. Ils vont vers les gens. Ils aiment bien parler aux gens. Et les gens se sentent...
Ah, ils font l'animation.
Absolument, parfois, ils disparaissent.
Ils sont chargés de com.
absolument, c'est tout à fait ça. Donc ça, c'est une énergie qui circule. Ils comprennent que maman et papa travaillent de cette manière-là, qu'on gagne notre vie de cette manière, qu'on loue des cabanes, et que voilà, qu'il y a des gens différents qui arrivent... Et puis ils acceptent ça et parfois on disparaît, je sais pas, deux heures parce qu'on a besoin de régler des problèmes et tout, et les enfants, voilà, ils se gèrent d'une certaine manière.
Oh, bah, c'est cool.
Ouais.
Ils arrivent. Bon, en même temps, ils ont l'air d'être dans un environnement assez assez sympa, quoi.
Oui, c'est vrai que je pense que la nature ça aide aussi à former des caractères un peu doux. donc oui, ouais, je pense que ça aide.
Et dis-moi, en termes de langue, comment vous faites? Tu leur parles espagnol quand même un petit peu?
Oui, en fait, c'est drôle parce que quand nous sommes arrivés, c'était que le français. Nous, on voulait absolument qu'Emile parle français. Donc, à la maison, c'était français. On communiquait avec lui, c'était français. Et du coup, ça fait... Ah, et Netflix, évidemment, c'est en français aussi. Tous les dessins animés, c'est obligatoirement en français. Et du coup, ça a permis qu'Emile apprenne le français sans problème. On n'est pas dans la partie écrite encore ou la lecture, parce que j'ai du mal encore avec l'espagnol à lui apprendre, mais il communique sans problème. On a eu pas mal de familles, des expatriés français qu'il a reçus pendant l'été dernier et ils changeaient de langue sans problème. Donc, on est un peu rassurés. Ouf. Maintenant, j'ai dû arrêter ça il y a un an parce que il va dans une petite école rurale où il s'exprime, les enfants, pas d'une manière correctement parlant l'espagnol, on va dire. Enfin, donc j'ai dû prendre la suite pour bien prononcer les mots, les lettres et tout, pour qu'ils parlent bien l'espagnol aussi. Donc, j'ai passé au
moins... Mais parce que tu veux dire, ils ont un accent oui. ou parce que tu trouves que le...
Enfin, okay. c'est la campagne. Donc, du coup, il y a, par exemple, en espagnol, le CH, on fait pas comme en ouais. français, le shampoing, on dit, tu dois la couper. Parce que sinon, ça donne une phonétique pas correcte. Et c'est pas
d'accord.
correct.
Et ils font ça?
Oui. Et par exemple, on marque les CH et on peut, c'est pas correctement parlé, quoi. Ça veut dire que c'est pas correct. Donc, j'ai dû passer dans une mode espagnole okay. pour parler la langue correctement et qu'ils apprennent de cette manière comme ça. Donc, du coup, Lucie, okay. Elle est pas trop française. Elle comprend absolument tout, mais elle dit pas de mots. Voilà, on est dans cette transition, je pense, entre les deux, okay. avec la plus petite.
Oui, et avant que Covid vienne sonner à nos portes, comment vous organisiez, parce que j'imagine que vous n'avez pas de support linguistique pour le français sur place.
Pas du Donc, tout, non, comment non. ça se passe? Comment je te dis en
C'est
fait,
pas comme s'il y avait un réseau de Français non, en pleine campagne.
Non, non. Le seul support, c'est nous et Netflix en français. Voilà. Et et les clients, des autres, quand ils viennent, comme tu te dis, les Français, voilà, c'est l'opportunité qu'ils ouais. puissent partager. Mais sinon, voilà, c'est ça. Et comme tu dis, la pandémie, je pense qu'elle a changé la vie de tout le monde, de la planète. Et donc, envisager oui. des voyages, c'est très dur. C'est très dur, surtout en ce moment qui, voilà, on parle des vaccins, que tu peux pas aller si t'es pas vacciné, que tu peux pas, voilà. Donc, je pense qu'on est dans un moment historique très, très complexe. Donc, non. Envisager des voyages pour le moment, c'est ça a l'air un peu
oui, c'est,
difficile. Hein.
Ouais, ouais. Compromis.
Oui, oui.
Et du coup, toi, tu es contente quand même d'être retournée à tes racines au Chili avec toute ta famille plutôt que de rester vivre en France?
Oui, je pense que avec Alexandre, on discute souvent de justement ce qu'on a fait. On pense que c'était vraiment le moment quand on a décidé de quitter la France et créer. C'est tout ça, c'était le moment. On a fait un énorme truc à nous deux. C'est énorme parce que vraiment, ça a demandé beaucoup d'efforts et on a créé quelque chose de super sympa. Et je pense que c'était vraiment, on peut être vraiment super content de nous, de tout ce qu'on a fait. Et oui, ça m'a fait plaisir de retourner, enfin, de revenir dans le pays, de voir comment ça se passe. Mais on pense aussi de revenir un jour en France. Hein. On pense pas ce projet, ça va être pour toujours. On pense que c'était quelque chose dans ouais. le temps, quelque chose qu'on avait besoin de développer, de créer dans cette étape de nos vies. Mais il manque trop de choses et on est trop éloigné ouais. de tout. Et pour nos enfants, on aimerait bien être plus près d'une ville pour aller voir la danse, pour aller faire la musique, enfin tellement de choses qu'ici c'est impossible parce que t'es trop éloigné.
Ah donc vous pensez quand même potentiellement vendre le complexe mais de rester au Chili?
Oui, absolument. On aimerait vraiment passer dans une autre étape avec cette expérience magnifique que l'on a fait. Ça va faire 7 ans qu'on est là. Je pense que dans 2 ans, pour que les enfants ne soient pas trop grands non plus, parce que l'adaptation c'est complexe quand t'es adolescent. Je pense que c'est plus simple quand t'es enfant. On pense d'aller en France, de s'établir dans une région de France. On pourrait pas habiter dans un appartement, ça serait certain. Donc, on aimerait bien aménager dans un endroit un peu qui ressemble à ce qu'on a ici, près de la nature, mais à la fois tout près de nous.
Oui, non, c'est sûr.
Principalement. Pour avoir ce choix, de sport, de culture, hein, qui nous manque. Hein, nous manque
oui,
ça.
Non, mais j'imagine que quand même la différence, la campagne, surtout quand vous êtes tous les deux quand même citadins, ça doit faire étrange après 10 ans de revenir en ville, quoi.
Oui. Ah, absolument. Hein. Et c'est drôle parce que ici, c'est la campagne volcan, c'est la campagne montagne. Donc, c'est différent d'une campagne à la mer, par exemple, et d'une campagne, campagne-campagne, ouais. On va dire. Ici, tu deviens
isolé,
plus, ouais, voilà, c'est le mot. C'est, tu, et on va dire, enfin, tu commences à créer ta grotte, et c'est difficile de sortir. C'est, d'aller voir des copains, que t'avais là, enfin, bon, tu fais des petits dîners, tout, tralala. Ici, ça, les gens ne se relationnent pas tellement. Chacun reste chez soi. Comme on est comme des ours.
Ah, oui, parce qu'il fait trop froid, je pense, ils veulent pas sortir
de
chez eux.
Ouais. Oui.
Mais de toute façon, dans votre, c'est quoi? C'est une ville? C'est un village dans lequel vous vivez?
Nous, on vit, on va dire, à 5 minutes de petit village, tout petit, hein. On va dire, il y a 15 maisons, pas plus que ça.
Ah ouais, quand
village.
Même, hein.
Oui. Donc, Oumam, c'est une petite population qui vit de l'hiver principalement, et aussi les communautés Mapuche, tu sais, les Indiens qui étaient là tout au début. Il y a une l'Araucanie, il y a une énorme enfin, le peuple Mapuche était installé là depuis le début. Ils sont aussi, ils partagent nos vies, quoi, aussi.
Ouais. Mais alors, pour conclure rapidement, est-ce que tu aurais des conseils à offrir à des familles qui souhaitent venir s'installer au Chili, en plus toi étant chilienne?
Ça dépend tellement de ce que tu souhaites créer ou tu souhaites faire, parce qu'il y a des familles, des Français qui se sentent tellement bien qu'ils ne souhaiteraient jamais quitter le Chili, qui habitent à Santiago, par exemple. Santiago, c'est une ville sympa si tu es dans un beau quartier, si tu as un travail sympa et tout, tralala. Je pense que ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez dans votre vie, vos objectifs en tant que famille. Je pense qu'il ne faut pas penser trop quand on se lance dans des défis comme ça, dans des projets de famille.
Oui.
Il faut y aller, tester, voir si ça marche et savoir que si ça ne marche pas, bah, tant pis, on peut recommencer ailleurs.
Oui, c'est une belle façon de voir les choses. Et alors vous, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? À part une belle saison d'hiver.
Ah, merci beaucoup. Ça commence, ouais, c'est la folie, hein, quand la saison d'hiver, c'est vraiment, on n'arrête pas, c'est 24 heures sur 24. Là, j'oublie que j'ai des enfants.
ça me paraît fou parce qu'on a l'air quand même proche, vu qu'on est sur le même continent, mais ça me paraît dingue qu'on soit inversé comme ça, quoi. Alors
ouais,
qu'on
n'est
que 3 heures de différence, ça me paraît dingue.
Absolument, oui, c'est vrai, hein. On est tout près, mais...
Mais on est très loin.
Mais oui,
c'est dingue.
Mais voilà, on est très loin à la fois. Oui. Donc, non.
Mais alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter?
Voilà, la meilleure des chances, comme tu as dit, pour cette saison d'hiver. Voilà, beaucoup de... d'espoir pour que cette pandémie nous laisse un peu respirer et sortir, parce qu'on est en quarantaine depuis très longtemps. Le gouvernement a fermé presque toutes les portes, parce que ça devient un problème grave. Et voilà, je pense que c'est ça. C'est un souhait de la planète, que nous tous, nous pouvions enfin sortir de cette cauchemar.
Oui, non, c'est sûr. Mais il faut garder espoir. Il faut vraiment garder espoir.
Ouais. Tout à fait, gardons l'espoir.
En tout cas, Julia, moi, je te remercie énormément pour ton témoignage. J'espère que ça va aider beaucoup de familles qui souhaitent se lancer au Chili. Et je partagerai le lien, bien entendu, pour ton petit complexe et de nous montrer un peu les chalets autour du volcan.
Oh, merci beaucoup, Cindy. Merci pour cette opportunité, justement, de pouvoir donner ce témoignage. On a parlé d'accouchement, on a parlé des différences de culture, on a parlé de ce que c'est aller à l'aventure en famille. Donc,
ouais.
J'espère que si quelqu'un nous écoute, il est dans cette horizon, dans cette pensée de faire quelque chose de fou. J'espère que mon témoignage va aider, justement.
Non, mais c'est un beau... moi, ce que j'en retiens, c'est qu'il faut se lancer, il ne faut pas trop se poser de questions. Donc, c'est un...
Absolument, ouais.
C'est une belle morale.
Oui, il faut y aller.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous ou de nous laisser un commentaire et une évaluation sur votre plateforme préférée. Nous, on vous souhaite une excellente semaine et on vous retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Ciao !